milieu de la liturgie, de la parole, nous avons chanté d'un seul cœur « Je chanterai ta force, ô mon Dieu, le Dieu de mon amour. » Et dans la deuxième lecture, la lettre de Paul aux Éphésiens, il y a cette expression très belle « Que le Christ rende fort en vous l'homme intérieur. » Que le Christ rende fort en vous l'homme intérieur. Cette parole de Paul traduit déjà un très grand amour pour l'Église, c'est-à-dire pour les chrétiens, et particulièrement cette portion de l'Église qui est à Éphèse. En effet, il dit dans ce passage sa propre prière. Il dit qu'il est saisi par un mouvement d'adoration de celui de qui vient toute paternité, Dieu. Je fléchis le genou, je tombe à genoux devant ce Dieu qui est décentré de lui-même, qui est éternellement Père, c'est-à-dire qui n'a pas à un moment de sa vie eu un fils, mais qui est éternellement tourné vers le Fils. En tout cas, source éternelle de vie. Et donc Paul commence à dire qu'il est un être de prière, mais sa prière n'est pas à huis clos. Aussitôt après, il dit, mais que le Christ habite en vous pour rendre fort l'homme intérieur. Il s'adresse à l'Église, il s'adresse à la communauté concrète d'Éphèse. Et quelle est cette force? Que veut dire l'homme intérieur devenu fort par le Christ? C'est évidemment tout autre chose qu'un homme qui serait trop sûr de lui-même et qui se barricaderait ou qui s'assurerait dans sa forteresse autoréférentielle, forteresse qui peut être de savoir, de bonne conscience construite au fil des âges, à la force du poignet. Je ne suis pas comme les autres hommes. Cet homme suffisant et orgueilleux n'a qu'une apparence de force, une apparence de fondement. Il est en fait une statue au pied d'argile, pour reprendre une image bien connue dans la Première Alliance. Un rien fait voler l'édifice en éclats. L'orgueil et l'arrogance gonflent le cœur humain, nous faisant paraître plus que ce que nous sommes. Dans le cœur humain naissent alors des délires. Oui, des délires, c'est le pape qui parle, donc je peux y aller. Hein. Des délires de toute puissance. Ce qui est, dit-il, très dangereux et fait beaucoup de mal. Non, bien sûr, la force du Christ est complètement autre chose qu'un appareil de gonflette dans une salle de muscu. Le cœur humain n'est pas fait pour l'athlétisme, et pourtant c'est quelqu'un qui aime l'athlétisme qui vous le dit. Le cœur humain n'est pas fait, il ne vit pas d'athlétisme. Je crois que c'est Madeleine Delbrel qui disait cela. Il vit de charité, c'est-à-dire d'amour, et d'amour d'éternité. Voilà ce qui fait vivre le cœur humain. Ce ne sont pas les exploits, ce ne sont pas les appareils de gonflette, même spirituels. C'est le propre de celui qui ne se met pas au centre. Voilà celui qui est l'homme fort, l'homme intérieur fortifié par la grâce. C'est celui qui ne se met pas au centre. C'est Jésus qui ne se dérobe pas à la voix de son Père dans la puissance de l'Esprit Saint. C'est Jésus qui au contraire se dérobe quand on veut faire de lui un roi. Et nous avons appris, pas seulement en France mais partout, combien il est toujours dangereux que les autres parlent trop de nous. Le nous de quelque individualité ou le nous de l'Église aussi. Oui, la force du Christ qui fortifie le cœur de l'homme n'a rien à voir avec ces édifices construits à la force du poignet ou du mollet. L'humilité tient en elle-même une force que personne ne pourra jamais lui enlever. Cette force vient de l'amour dont il est aimé. La vie cachée de Marie à Nazareth, la vie cachée de Marguerite Marie dans le monastère de la Visitation à Paray-le-Monial, et au fond la vie du Seigneur lui-même, est une vie qui apprend, qui rayonne une humilité vraie et non pas feinte. Il n'y a pas pire d'ailleurs que ceux qui veulent mimer l'humilité. « Ah, mais je suis mauvais, non, je ne peux rien faire. » Tu parles, tu ne parles que de toi en disant ça, et donc tu n'es pas humble. Et puis si on parle de toi, n'aie pas peur si de temps en temps on dit du bien. Pense que tu attends bien autre chose que la louange des hommes. Vous voyez, l'humilité est un don que Jésus seul nous apprend à aimer et à recevoir. Vie cachée du Seigneur lui-même à Nazareth. Il y en a qui ont été imaginés sottement que pendant ces 30 années, il était parti je ne sais où en Asie, parce que quand même, ce n'était pas digne d'un maître de sagesse comme ça de rester planqué dans un petit village aussi minable que Nazareth. Ce n'est pas digne quand même ça, voilà. Ben si, voilà. Vie cachée du Seigneur aussi dans la vie publique. Combien de fois les évangélistes disent qu'il se retire en secret le matin tôt, la nuit, seul pour prier. Et combien de fois il entraîne ses disciples à l'écart pour ne pas se laisser entraîner, ou ne pas les entraîner aussi, sur une route d'apparence, qui serait une force apparente de Dieu, mais qui n'a rien à voir avec le secret de notre Dieu. Mettez-vous à mon école, dit-il. Et nous savons combien Marguerite Marie a été à cette école. Car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos de vos âmes. Cette école, Paul en parle quand il dit que le Christ habite en vous. Alors, Marguerite Marie a écrit aussi. Elle a eu des correspondants. Je ne suis pas un grand connaisseur de sa vie, mais il y a son autobiographie qui a été demandée. Bon, il y a aussi des lettres et puis des témoignages qui ont été apportés. Au fond, qu'est-ce qui fait qu'elle est en relation avec les autres? C'est pour désirer pour les autres une vie dans le Christ. C'est le but de sa vie. Aimer et faire aimer. Faire aimer celui qui s'est livré pour nous, pour elle. Le but de la vie de Marguerite Marie, des saints et des saintes, c'est pas simplement de faire, comme on disait avant, d'une manière absolument ignoble, faire son ciel. Ah bon. Et surtout sans les autres, évidemment, enfin, sans les gêneurs, tout ça. Ah non. C'est justement être livré par amour avec le Sauveur qui a donné sa vie pour que personne ne soit perdu. Et nous avons beaucoup besoin aujourd'hui d'apprendre que cet amour se donne à voir chez ceux qui peuvent paraître à la périphérie, mais qui dans le cœur de Dieu sont peut-être au centre. Pensez au bon larron. Pensons aux pauvres, aux estropiés, aux paralysés, que le Seigneur n'a cessé, dont il n'a cessé de se rendre proche. Voilà, nous demandons aujourd'hui la grâce profonde de la joie et d'une force intérieure qui n'est pas la force que nous avons acquise avec des exercices. Voilà. Ça va comme ça? On comprend? Bon, si on ne comprend pas, tant pis. De toute façon, vous l'apprendrez aussi avec l'expérience, voilà. Ça, je plaisante, je sais que vous entendez. Mais c'est tellement important que lorsque nous goûtons le bonheur de la liturgie, franchement nous le goûtons, le bonheur de la prière, nous ayons bien conscience que l'homme intérieur n'est absolument pas une forteresse, n'absolument pas un homme dur, voilà. Il faudrait opposer la force du Christ avec la dureté. Sa force est entièrement une force de vie, une force de sang, une force d'espérance. Elle n'est absolument pas une force de protection ou une force de toute puissance imaginaire, une toute puissance contre l'adversaire qui il faudrait se barricader. Non, pas du tout. Le Christ s'est livré lui-même en tout pour qu'éclate progressivement dans la conscience humaine et dans l'histoire cet impensable visage de notre Dieu et Père, cette impensable réalité d'un Dieu qui se donne entièrement et qui n'attend pas qu'on vienne vers son trône, quoi, mais qui descend tout le temps par humilité et pour nous révéler finalement un amour que tous, auquel tous aspirent. Amen.